France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, Georges Brassens en scène, quatrième partie. En prélude aux célébrations du centenaire de la naissance de Georges Brassens en octobre prochain, France Musique prépare cet anniversaire dès cet été et pour ma part, je vous accompagne durant 8 semaines en compagnie de Georges. Depuis qu'il a fait ses premiers pas sur scène début 1952, sa personnalité décalée et son style très original lui ont valu de connaître un succès qui s'est progressivement affirmé et lui permet de se faire l'année suivante une place enviable dans le monde de la chanson. En novembre 1953, son premier album 33 tours 25 cm sort chez Polydor sous le titre « Georges Brassens chante les chansons poétiques et souvent gaillardes » de Georges Brassens. Il regroupe tous ses enregistrements de mars à octobre 1952, précédemment publiés sur disque 78 tours.
Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson. Et la bouche pleine de joyeux ramages allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Cendrillon ravi de quitter sa cage, met sa robe neuve et ses bottillons. Et bras dessous vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Ils ne savaient pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qu'il transperçait les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons. Quand il se fit tendre, elle lui dit : je présage que c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse aux papillons. Sur sa bouche en feu qui criait « Sois sage », il posa sa bouche en guise de bâillon. Et ce fut le plus charmant des remue-ménages qu'on ait vu de mémoire de papillon. Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village en se promettant d'aller des millions, des milliards de fois et même davantage, ensemble à la chasse aux papillons. Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages, porteurs de chagrin, les épargneront, il fera bon voler dans les frais bocages, ils feront pas la chasse aux papillons, pas la chasse aux papillons.
Le soutien de Patachou et surtout celui de Jacques Canetti ont donc porté leurs fruits, comme Georges le rappellera en 1967 au micro de Micheline Sandrel lors d'une soirée organisée pour célébrer le 20e anniversaire de la fondation du théâtre des Trois Baudets.
Il y avait une règle d'or qui existait au Baudet, qui était, on n'était pas pressé. Vraiment, je peux dire
mais
que...
Mais il faut dire ça, c'était Canetti qui faisait ça, oui, quand même. Oui. Parce qu'il y en avait déjà à ce moment-là qui étaient pressés. Il faut rendre cette justice à Canetti, qui a sans doute d'autres défauts. Mais il avait cette qualité. Quand il avait confiance en un artiste, l'artiste pouvait se payer le luxe de n'avoir pas de succès pendant X temps, pendant 6 mois.
Moi, je compte que la mise au monde d'une vedette à l'époque était de 3 ans. Et si quelques-uns ont été plus rapidement vedettes que les 3 ans réglementaires... Certainement, les 3 ans ont permis à tout le monde de prendre racine, c'est-à-dire d'avoir des racines réelles avec le public. La vedette sentait ce qu'il avait à dire parce qu'il avait pratiqué toutes sortes de publics. Il avait pratiqué les publics de près, car les Baudets, c'est une toute petite salle, il faut bien dire. Nous sommes une salle de 220 ou 230 places. Et chaque artiste qui passait devait réellement répondre exactement à ce qu'attendait le public de lui. Et s'il ne répondait pas à ce qu'attendait le public de lui, ça ne marchait pas.
Si l'année 1953 a été celle des premiers succès, 1954 s'annonce encore meilleure. Après les cabarets, Georges Brassens a droit aux honneurs des scènes de music-hall. Ses premiers passages à Bobino en octobre 1953, puis au Théâtre de l'Étoile début janvier 1954, sont suivis en février par un premier Olympia. Il s'agit même du deuxième programme, après celui de Gilbert Bécaud, de la nouvelle direction de Bruno Cocatrix. C'est dire l'importance acquise par le chanteur en moins de 2 ans. Pour son premier engagement à l'Olympia, Georges appelle à la rescousse le contrebassiste Pierre Nicolas, qu'il a connu chez Patachou et qui deviendra son accompagnateur attitré durant près de 30 ans. Le deuxième disque 33 tours 25 cm de Brassens sort justement chez Philips en février 54. À partir de cette époque, tous ses albums bénéficient d'un accompagnement plus étoffé, légendé, Georges Brassens et ses rythmes. Il n'est plus seul avec sa guitare, mais s'est adjoint deux musiciens issus du cabaret de Patachou, Victor Apicella à la seconde guitare et Pierre Nicolas à la contrebasse. Au mois de mars 54, Georges Brassens reçoit un premier grand prix du disque de l'Académie Charles Cros pour « Le parapluie ». La même année, il publie un recueil de poèmes et de chansons sous le titre « La mauvaise réputation ». Ses chansons séduisent alors d'autres interprètes. Juliette Gréco adopte la magnifique « Chanson pour l'Auvergnat » qu'elle chante à l'Olympia en mai 54 et qui sera bientôt reprise par Léo Noël et par les compagnons de la chanson. Le parapluie est interprété par deux chanteuses de genres très différents, la populaire Lina Margi, puis la sophistiquée Suzy Solidor dans son cabaret proche de l'étoile. Michel Arnaud, pour sa part, chante Une jolie fleur au cabaret Milan Larsouille.
Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que lui dans tous les âges. Mais faut dire qu'il s'était crevé les yeux en regardant de trop près son corps sage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache et qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel l'avait pourvu des mille appâts qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. Elle en avait tant qu'il ne savait pas, ne savait plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre. Mais pour l'amour on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre.
En mai 1954, Georges Brassens chante à l'ancienne Belgique de Bruxelles. Il effectue ensuite une tournée de 60 dates à travers la France, la Belgique et la Suisse. Il revient à l'Olympia au mois de septembre, puis à Bobino en novembre. La radio nationale n'a malheureusement capté aucun concert de Georges Brassens entre 1954 et 61. Et l'on doit en conclure une certaine forme de divorce entre le chanteur, perçu comme trop cru et bourru, et la radio, que lui considère comme trop pudibonde. La dernière archive en public de cette époque, datée de décembre 54, est une apparition à la Grande Nuit des Champs-Élysées, donnée au cinéma Normandie, au profit des œuvres sociales de l'entraide du cinéma.
Si gît au fond de mon cœur une histoire ancienne, un fantôme, un souvenir d'une que j'aimais, le temps à grands coups de faux peut faire des siennes. Mon bel amour dure encore et c'est à jamais. J'ai perdu la tramontane en trouvant Margot, princesse vêtue de laine, déesse en sabots. Si les fleurs le long des routes se mettaient à marcher, c'est à la Margot sans doute qu'elle ferait songer. Je lui ai dit de la Madone, tu es le portrait, le bon Dieu me le pardonne, c'était un peu vrai. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous, j'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. J'ai perdu la tramontane en perdant Margot, qui épousa contre son âme un triste bigot. Elle doit avoir à l'heure qu'il est, deux ou trois marmots qui pleurent pour avoir leur lait. Et moi j'ai été leur mère longtemps avant eux, le bon Dieu me le pardonne, j'étais amoureux. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous, j'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou.
Non, voyez-vous, Georges Brassens veut absolument ne chanter qu'une chanson comme tous ses camarades, mais bien qu'il n'ait chanté qu'une chanson, nous lui remettrons deux triomphes. Le triomphe de la plus forte vente de disques et le triomphe des vedettes variétés 54.
L'absence dans les archives de l'INA de toute interprétation de Brassens sur scène durant les 7 années qui suivent n'est évidemment pas le fruit du hasard. Nul doute que la mauvaise grâce avec laquelle il s'est laissé enregistrer à la Villa d'Est en décembre 1953 et l'interdiction d'antenne de nombre de ses chansons, pour le vocabulaire employé ou pour les thèmes développés, y sont pour beaucoup. Les choses se passent différemment sur les radios privées, dites périphériques. Si Radio Luxembourg, au public familial, a le même genre de réticence à diffuser Brassens, il en est tout autrement sur Europe numéro 1, créée en 1955. Pour elle, point de comité d'écoute ni d'interdiction d'antenne. Elle va donc prendre un malin plaisir à diffuser pour la première fois sur les ondes les chansons jusque-là proscrites, comme Le Gorille, La Mauvaise Réputation ou Hécatombe. Séduit par ses audaces, Georges Brassens sera très fidèle à cette station durant plus de 20 ans, lui accordant la primeur de ses interviews à chaque sortie d'album. Un disque 33 tours sera même édité en 1976 chez Philips, intitulé « 20 ans d'émission avec Georges Brassens à Europe 1 ». Il regroupe des interprétations de chansons de sa jeunesse, comme celles que nous avons entendues dans la première émission de cette série. Mais Georges chante aussi, bien sûr, sur la jeune station, ses nouveautés, comme ici en décembre 1955, l'avant-première d'une chanson qui figurera sur son 4e disque 25 cm Philips au printemps suivant.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Sur les ondes nationales, seuls quelques producteurs, quelque peu dépités par la sévérité du comité d'écoute, ont continué à soutenir Brassens, et c'est le cas de Luc Bérimont, qui l'invite régulièrement dans son émission Avant-première pour commenter, voire aussi chanter, ses nouvelles chansons, comme ici en octobre 1958.
Jacques Qualité nous a prévenu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs chansons de vous qui étaient impubliables, enfin, qu'il était impossible de donner à l'antenne.
Ben, disons-le, il y a quelques chansons dans lesquelles j'ai mis des gros mots. D'une part parce que j'aime assez les gros mots, je ne suis d'ailleurs pas le seul. Mais enfin, moi j'ose le dire. Et d'autre part parce que je trouve que ça sonne bien, que c'est assez... Et puis c'est un genre qui me convient assez.
Bon alors, puisque nous n'allons pas entendre cette chanson, racontez-nous-la.
Eh bien, celle-ci s'appelle « Le pornographe du phonographe », c'est ma propre histoire si vous voulez. Je dis que quand j'étais petit, j'avais une sainte horreur des gros mots, j'avais la phobie des gros mots, et je les pensais tout bas et je n'osais pas les dire. Mais maintenant que c'est mon gagne-pain de les dire, je ne les pense plus et je les dis. Je suis le pornographe du phonographe, etc. Alors je cite tous les gros mots, enfin tous les gros mots possibles. Parce qu'encore là, dans le domaine des gros mots, il y en a quand même qui ne sont pas encore possibles de dire, que je dirai peut-être les autres années. Et je prends tous les gros mots que j'ai déjà dit. Et je les mets dans un petit couplet, par exemple, je dis, quand je peux pas vous dire le texte, puisque le gros mot y est dedans, alors je dis que j'aimerais mieux chanter des petites poésies, des choses bucoliques, mais que je ne peux pas, parce que les directeurs de cabaret s'arrachent les cheveux quand ils m'entendent. Ils veulent que je dise des choses désagréables, je dis aussi que... Je ne sais pas ce que je dis, enfin, si vous avez l'occasion d'écouter autre chose que la radio, vous l'entendrez.
Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson
de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus. Mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt et me crie va te faire main incorrecte, voire parler grec. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Tous les samedis je vais à confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses, et je promets faire mon marabout de les mettre tabou. Mais craignant si je n'en parle plus de finir à l'armée du salut, je remets bientôt sur le tapis les fesses impies. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Ma femme est, soit dit en passant, d'un naturel concupiscent qui l'incite à se coucher nu sous le premier venu. Mais m'est-il permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert sans dire qu'elle l'a suraigu le feu au cul. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. J'aurai sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec décorum l'amour qui mène à Rome. Mais mon ange m'a dit turlututu, chanter l'amour t'est défendu s'il n'éclot pas sur le destin d'une putain.
Vous savez, j'ai eu du goût aussi pour les chansons de salle de garde. J'ai du goût pour toutes les chansons.
Ouais.
Et j'ai rencontré forcément les chansons de corps de garde. Alors ça m'a amusé d'en faire, ne serait-ce que pour emmerder les filles que je connaissais à cette époque-là, pour choquer non pas le bourgeois, mais pour choquer, si vous voulez, quelques membres de mon entourage qui s'offensaient facilement quand on disait un gros mot.
Ouais.
C'est
mais
comme ça que j'ai commencé à employer des gros mots. C'est pas tellement pour... Enfin, j'aime assez ça quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais aujourd'hui, les gros mots ont moins d'importance, moins de valeur que jadis. Et puis, il y a plusieurs façons de dire les gros mots.
Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est quand même transfiguré par le grand art.
Oui, j'essaie d'y mettre un petit peu de fleurs autour, bien que je ne sois pas tellement porté sur les fleurs.
20 ans plus tard, dans un long entretien accordé à Philippe Nemo sur France Culture, en janvier 79, Georges Brassens se montrait encore amer sur les interdictions dont il fut l'objet durant des années sur les ondes nationales. En ce qui concerne les captations de ses concerts, il faut donc attendre son passage à l'Olympia de novembre 1961 pour le retrouver dans les archives de l'INA. Il vient de fêter ses 40 ans et s'est quelque peu adouci avec un répertoire très renouvelé et plus rassembleur. Il en est en effet à son 8e disque 33 tours 25 cm qui sort au même moment chez Philips. Le soir de la première, Micheline Sandrel est venue l'interroger dans sa loge.
C'est un moyen de vous préparer, Georges Brassens, que de fumer nerveusement, à bouffer rapide, cette pipe.
Bon, nerveusement, je ne sais pas. Je suis peut-être nerveux parce qu'il y a un micro. Dès que le micro me rend nerveux, tout de suite. Sinon, la pipe me calmerait plus tôt.
Qu'est-ce qu'on pense dans les quelques 10 minutes qui précèdent le passage, quand les autres sont déjà sur scène?
Je ne sais pas ce que pensent les autres. Moi, je ne pense pas grand-chose. Vous savez, je ne pense pas toute la journée. Du reste, mes 10 minutes avant de passer en scène, on ne pense pas du tout à... On ne pense à rien. Quoi.
On ne pense à rien, on essaie de faire le vide.
On attend que ces 10 minutes soient passées.
Ah bah, ce n'est pas tout à fait la première, puisque hier vous étiez à Versailles.
Et on était déjà à Versailles, oui, alors c'est la deuxième.
Mais alors comment c'était hier à Versailles?
Ça s'est très bien passé, oui, mais enfin, vous savez, comme j'ai l'habitude de ne jamais chanter mes chansons avant la première,
oui.
Je suis obligé finalement de chanter 8 chansons nouvelles que je n'ai jamais chantées, c'est très difficile.
8 chansons que vous n'avez jamais chantées nulle part?
Je n'ai jamais chanté nulle part, oui, c'est une espèce de coquetterie.
Oui, que
j'ai,
vous avez toutes les fois.
J'ai coutume de chanter chaque fois mes chansons à l'Olympia, la première fois.
Il y avait des temps et des temps que je ne m'étais pas servi de mes dents, que je ne mettais pas de vin dans mon eau, ni de charbon dans mon fourneau. Tous les croque-morts silencieux me dévoraient déjà des yeux. Ma dernière heure allait sonner, c'est alors que j'ai mal tourné. N'y allant pas par quatre chemins, j'estourbisonne un tournemain. En un coup de bûche excessif, un octambule en or massif, les chats fourrés, quand ils l'ont su, m'ont posé la patte dessus pour m'envoyer à la santé, me refaire une honnête.
toutes tes machins, choses, un tel, une telle, tous ceux du commun des mortels furent d'avis que j'aurais dû en bonne justice être pendu à la lanterne et sur le champ. Ils se voyaient déjà partageant m'accordant tout bien, tout honneur en guise de porte bonheur. Au bout d'un siècle, on m'a jeté à la porte de la santé. Comme je suis sentimental, je retourne au quartier natal, baissant le nez, rasant les murs, mal à l'aise sur mes fémurs, m'attendant à voir les humains se détourner de mon chemin. Y en a un qui m'a dit salut, te revoir on n'y comptait plus. Y en a un qui m'a demandé des nouvelles de ma santé. Lors j'ai vu qu'il restait encore du monde et du beau monde sur terre, et j'ai pleuré le cul par terre, toutes les larmes de mon corps. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.
Je peux, tout en ne croyant pas en Dieu, écrire cette chanson à un Auvergnat qui croit en Dieu. Comme je suis quand même un artiste, c'est-à-dire, je le mets entre guillemets, une espèce de magicien. Alors, cet homme, cet Auvergnat, auquel je dédie cette chanson, puisqu'il croit en Dieu, lui, et que je fais cette chanson pour lui, je dois lui parler de Dieu. Et puisque lui, il pense qu'il y a un au-delà, et qu'il pense que Dieu existe, enfin qu'il a le ciel conventionnel, quoi. Mais puisque je fais cette chanson pour cet Auvergnat, je parle de Dieu, je lui dis, toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te...
Qu'est-ce que c'est ? Conduise.
Qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Alors évidemment, on peut trouver ça ambigu, comme vous le dites. Mais l'artiste a de toute façon le droit d'être ambigu. Oui.
C'était un autre extrait de l'entretien donné en 1979 à Philippe Nemo, auquel Georges Brassens déclare que depuis cette chanson, on le prend pour un Auvergnat. Il confie aussi que pour réduire ses trous de mémoire, il est obligé de réapprendre les paroles de ses chansons avant chaque série de concerts en réécoutant ses disques. Au début des années 60, entre ses multiples tournées, Brassens a désormais deux rendez-vous réguliers avec le public parisien, à Bobino et à l'Olympia, dont les tailles et les publics sont bien différents, comme il le confiait en février 59 à Luc Bérimont.
Et bien maintenant, Georges Brassens, si nous voyons la façon dont vous ressentez vos deux rendez-vous parisiens de l'année, le rendez-vous de l'Olympia et le rendez-vous de Bobino, est-ce que ce sont des publics très différents pour vous ?
Il me semble que le public de Bobino est un public composé d'un plus grand nombre d'amis que le public de l'Olympia. C'est une apparence, je ne veux pas dire de mal du public de l'Olympia. Dieu m'en garde, ils sont trop nombreux, trop forts pour moi. Mais à Bobino, on a l'impression que ce sont des gens qui viennent voir quelqu'un qu'ils aiment déjà. À l'Olympia, ils viennent plutôt vous voir accomplir un tour de force. Enfin, je crois que c'est ça, c'est mon impression. Vous savez que la plupart des impressions sont fausses. À Bobino, c'est des amis qui viennent. Et c'est pour ça que, comme ce sont des amis, je leur chante ce que j'ai chanté aux autres. La même chose, je ne pense pas que les chansons soient usées quand même au bout de 4 semaines, vous savez. J'ai l'impression même que si j'avais fait d'autres chansons, je les perdrais. Si. Parce qu'en fin de compte, quand je fais un nouveau tour de chant, je suis obligé d'en supprimer la moitié. Alors ça me gênerait maintenant de supprimer les chansons qui ne me fatiguent pas encore. Et qui, je l'espère, ne fatiguent pas encore le public.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison ? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en me donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait l'affaire, tant vendu ce soir-là le petit bout de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui conter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
Cet extrait du tour de chant donné par Georges Brassens à Bobino en janvier 1962 confirme qu'il a désormais une place de choix dans le paysage de la chanson, au même titre que ses amis Jacques Brel ou Léo Ferré. Ces trois-là, et quelques autres, affirmant la force de la chanson d'auteur, fédèrent plusieurs générations et n'ont pas grand-chose à redouter de la vague yéyé qui commence à s'emparer du public adolescent. Nous verrons dans la prochaine émission comment Georges Brassens fera pour composer avec sa renommée croissante. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette série sur le site francemusique.fr à la page Tour de chant. Tour de chant, une émission de Martin Penney, avec le concours de Dorothée Goll à la préparation, Xavier Lévesque à la technique, David Jacubovièze à la réalisation, Véronique de Saint-Pastou et Aude Vassan pour les archives de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.